Alors, Jules Blancpain, c'était un peintre reconnu dans le Jura bernois qui a notamment beaucoup travaillé en Orient, qui a vécu entre 1860 et 1914 et qui a donc produit toute une production picturale autour du réalisme, de l'orientalisme et de l'impressionnisme notamment.
Le nom de Blancpain était déjà connu, hein, puisque la famille était active dans l'horlogerie. Jules a fait des études horlogères. Finalement, qu'est-ce qui l'a fait changer de voie, Diana Sylborne?
Alors, en effet, il était prédestiné à reprendre l'entreprise paternelle. Et en fait, il a été malade des poumons depuis son enfance, qui a d'ailleurs eu un impact sur sa première formation à l'école d'horlogerie de Saint-Imier. Et du coup, il était aussi forcé à la mauvaise saison, comme il fait passablement froid à Villeray, de partir dans des pays plus chauds, avec un climat plus favorable pour ses problèmes pulmonaires. Et il est d'abord reparti vers l'Italie avec sa famille, et c'est apparemment lors d'un voyage entre Gênes et Florence qu'il aurait rencontré un peintre neuchâtelois qui l'aurait encouragé à continuer en fait sur la voie artistique, puisque Blancpain avait déjà pris des cours de dessin. Et ensuite, il est parti en 1883 à Paris pour commencer sa carrière en tant que peintre.
Quels étaient justement ses thèmes de prédilection?
Alors ben justement, ces différents voyages ont été très influents dans ces thèmes de prédilection. Donc notamment toutes les thématiques orientalistes, beaucoup de portraits de femmes d'Alger notamment, beaucoup de réalisme et des motifs qui sont typiquement helvétiques. On a des paysages du Jura, du Chasseral, des plaines et beaucoup de peintures de genre typiques un peu Albert Anker, qui étaient aussi des sujets de prédilection.
Est-ce que c'est ça qui va faire que Jules Blancpain va devenir une figure artistique marquante de la région en Suisse?
Notamment, oui, aussi de par ses nombreuses participations à des expositions au niveau national, puisqu'il a participé à de nombreuses reprises aux expositions nationales des Beaux-Arts qui se tenaient à Berne, mais aussi par son implication dans la Société des Amis des Arts à Neuchâtel. D'ailleurs, Blancpain va presque être plus reconnu par Neuchâtel, puisqu'il va beaucoup participer à la scène artistique là-bas. Et du coup, ensuite, évidemment, ça a eu un impact dans le Jura bernois.
Pourquoi on dit qu'il est méconnu?
Alors, méconnu, je pense que c'est un grand terme. Peut-être pas suffisamment connu ou reconnu pour son travail. Il faut savoir qu'il existe jusqu'à hier en tout cas, il existait trois monographies sur l'histoire de Jules Blancpain qui datent toutes du début de la première partie du XXe siècle, qui avaient toute tendance à le présenter sous une même ligne de combat, on va dire, c'est-à-dire un peintre qui n'était embrigadé derrière aucun chef de file, qui était presque un peu un génie artistique en plein milieu des courants de cette période du XIXe au XXe siècle. Et ça a un peu conditionné la façon de présenter Jules Blancpain, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et j'imagine que ça a en tout cas participé du fait que sa renommée se cantonnait un peu à une importance régionale jusqu'à aujourd'hui.
Comment est venue cette idée de consacrer un livre à cet artiste du Haut-Vallon de Saint-Imier, Diana Sylborne?
Alors en 2012, il y avait eu une exposition sur ce peintre à Saint-Imier, entre le musée de Saint-Imier et le centre de culture et de loisirs. Et à cette occasion, les membres de la revue Intervalle étaient venus voir les œuvres qui étaient exposées et ont été fascinés par cet artiste et souhaitaient faire une réactualisation en fait de la recherche le concernant. Ce qui a été mis en place, ce qui s'est malheureusement pas donné. Normalement, l'ouvrage aurait dû sortir en 2015, mais le conservateur de l'époque est parti sur Lausanne. Et donc, cet ouvrage n'a pas pu sortir. Et c'est l'année passée, ou il y a 2 ans, que le directeur de la revue Intervalle en fait, a rencontré Coraline à l'occasion d'un vernissage au nouveau musée de Bienne. Il a entendu que c'était une historienne de l'art. Il lui a proposé de reprendre ce sujet. Et puis ensuite, c'est un peu venu naturellement que je sois aussi inclue dans cette histoire-là en étant la conservatrice du musée.
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour l'écriture de cet ouvrage? Parce que, eh bien, vous, Coraline Guyot, vous êtes assistante doctorante, hein, vous êtes historienne. Vous, Diana Sylborne, vous êtes conservatrice du musée de Saint-Imier. Est-ce que déjà, à ce moment-là, vous saviez un petit peu où vous dirigez pour trouver les informations, ou c'était quand même compliqué?
Alors, de base, on a une formation qui nous permettait de savoir dans quelle direction aller, du fait de nos études académiques. Ce qui a très rapidement posé problème, c'est surtout les questions de sources, qui, comme je l'ai précisé un peu avant, se résumaient à 3 monographies, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, dont la plupart citaient des sources qui n'ont pas été possibles, en tout cas à ce jour, d'être consultées, donc des correspondances du peintre ou différentes ressources de journaux, ce genre de choses, sur lesquelles malheureusement on n'a pas pu tabler pour cette rédaction d'ouvrage. Donc très rapidement, on a été limité par nos sources écrites, si je puis dire, mais ce qui nous a aussi permis de nous tourner beaucoup plus vers la production picturale et de proposer vraiment une analyse technique et iconographique autour de ce peintre.
Les personnes vers qui vous vous êtes tournées, elles ont été réceptives, elles ont répondu à vos requêtes.
Alors oui, tout à fait, je crois qu'il y avait quand même une attente de la part des institutions, puisqu'on retrouve des tableaux de Blanpain dans plusieurs institutions régionales, mais aussi de Suisse romande, notamment le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, le musée jurassien des Arts de Moutier. Et on a toujours été très bien reçus quand on a demandé à pouvoir avoir accès aux œuvres qui étaient conservées chez eux. La chance qu'on avait aussi, évidemment, c'est que la plus grande partie du patrimoine de Jules Blanpain se trouve dans le vallon de Saint-Imier, entre la paroisse de Villeray, le musée de Saint-Imier et Mémoire d'ici, qui conserve deux fonds particulièrement intéressants qui n'avaient jamais été publiés jusqu'à ce jour, soit 200 dessins académiques et 200 plaques photographiques.
Comment vous êtes partagé le travail ? Vous avez écrit le tout à deux mains ?
Oui. Non. C'est venu assez naturellement parce que déjà on a dû dresser en fait un pré-sommaire, si on veut, en voyant les grandes catégories qui nous permettraient de raconter l'histoire de Jules Blanpain. Et puis ensuite, c'était en fonction de nos sensibilités, notamment des études de Coraline.
Est-ce qu'on essaie d'avoir une écriture similaire pour que le lecteur ne remarque pas forcément qu'il y a deux personnes derrière ?
C'est très difficile, surtout sur un ouvrage là, qui fait 192 pages, d'avoir une écriture similaire. On a essayé d'être en tout cas le plus cohérent dans notre manière de formuler nos propos et puis d'amener soit les anecdotes, les sources et ce genre de choses. Après, on a pris aussi le parti de ne pas signer respectivement chacun de nos chapitres, mais plutôt de signer l'ouvrage ensemble, parce que c'est quand même un travail qui a été fait à deux mains pour l'intégralité, mais effectivement, vous verrez peut-être des petites différences de rédaction par-ci, par-là.
Vous avez toutes les deux des formations en histoire de l'art. Quel est l'aspect artistique de Jules Blanpain que vous préférez ?
Pour ma part, c'est vraiment ces œuvres, ces scènes typiques peintures de genre qui sont tout à fait empruntées aux motifs ankériens, des scènes de vieillards faisant la lecture ou des scènes avec des jeunes enfants qui sont vraiment un peu mes coups de cœur de cette production.
Et pour vous, Diane Hesselborn ?
Alors moi, c'est aussi orienté sur un des chapitres sur lesquels j'ai travaillé. J'ai particulièrement apprécié ces portraits d'Algériennes qui sont très intéressants d'un point de vue pictural, de technique, mais aussi ethnographique, puisqu'ils représentent particulièrement bien les parures de ces femmes, que ce soit les bijoux ou les tissus qu'elles portent sur la tête.